Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat ou Melavé Malka. On ne se dit pas Shabbat Shalom ou Shavuot Tov comme on le fait chaque semaine, parce que pour la première fois de l'année, pour la première fois en 2022, cette émission est diffusée et le vendredi soir et le samedi soir. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shalom Alechem.
Bonsoir, bonsoir.
Rav Eli Lemel, on va ce soir, comme on le fait chaque semaine, poursuivre notre réflexion sur la paracha, ce passage que nous lisons dans nos communautés chaque semaine. On est arrivé maintenant à Mishpatim Terouma et on va réfléchir justement à c'est quoi l'idée d'une Terouma. Alors, en fait, il faut, d'après ce que nous disait Tex, bien comprendre que c'est pas pour nous. Souvent, on a envie de donner pour soi, mais alors là, encore plus dans le cadre d'une offrande qui est faite à Dieu. Et pourtant, on en tire quelque chose pour soi. Alors, il y a vraiment la motif à réflexion et on a besoin de vos éclaircissements.
En effet, Shabbat, donc, nous allons commencer d'ailleurs toute une série de parashiot dans lesquelles nous allons parler de la construction du Mishkan, du sanctuaire désert qui va par la suite se transporter en Israël et dans un second temps devenir le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Évidemment, tout le peuple d'Israël va participer à la construction de ce Mishkan, aussi bien à travers justement ces fameux dons qui vont être effectués, puis aussi parce qu'il va y avoir bon nombre de personnes, différents artisans qui vont se consacrer à la réalisation de cet ouvrage. Alors, de manière très intéressante, le début de la paracha commence lorsque Dieu va donner l'ordre à Moshe de demander aux enfants d'Israël de faire ce que l'on appelle aujourd'hui une terouma. Terouma, c'est un prélèvement. C'est intéressant de voir qu'on ne parle pas ici de matana, de don, mais terouma, c'est un prélèvement. Vous savez que ce terme est utilisé, entre autres, par rapport au prélèvement obligatoire que l'on doit faire sur les récoltes en Israël. Cette fameuse terouma, ces prélèvements qui sont donnés aux Kohanim, aux prêtres, il va y avoir aussi une partie qui va être donnée aux Lévites, et puis aux pauvres. Et on parle ici donc de terouma. Alors, plusieurs mots surprenants dans ce premier verset. Tout d'abord, « Ve yikru li terouma » et ils prendront pour moi un prélèvement. De chaque individu dont le cœur aura envie de donner, vous prendrez mon prélèvement. Tout d'abord, ce serait attendu à ce que le verset nous dise « plus veillit nous lit et qu'il me donne » ou alors tout simplement « veillit nous et qu'il donne ». Donc on a ici tout d'abord cette notion de « lekira », cette notion de « prendre » et puis après « lit pour moi ». On va s'arrêter en premier lieu, si vous voulez bien, sur ce terme de « lit pour moi » et Rashi va nous éclairer à travers un commentaire très succinct dans lequel il va nous dire « lit pour moi, lishmi en mon ». Alors, qu'est-ce que Rashi est en train de nous dire ? Faire un prélèvement pour le donner, mais en mon nom, Lishmi, pour mon nom. Il y a en effet ici une ouverture très intéressante à travers ce petit mot « li » qui nous amène à réfléchir sur ce qu'est la finalité du don. Lorsque nous allons apporter quelque chose pour construire le temple de Jérusalem, il va falloir être sûr, dit le texte, que la raison essentielle, c'est parce que nous avons envie de faire nachat ruach, c'est-à-dire littéralement plaisir. Alors, le terme n'est pas suffisamment bien traduit. Nachat ruach, c'est une forme de bien-être de l'esprit au créateur de l'univers. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout de lui montrer ô combien nous l'aimons à travers le fait que nous allons faire cet acte de prélever de nous et de l'apporter pour la construction du Mishkan. Et donc, il faut croire que si le texte a besoin de nous le préciser, c'est qu'il y a sans doute dans l'enjeu du don, et surtout pour une noble cause, peut-être des intentions parfois qui sont alors inconscientes, un peu moins louables, que sais-je, mais dans lesquels, eh bien, on va se faire exister. J'ai donné, je suis content, je regarde la chose et je me vois exister à travers cette chose. Ça s'appelle parfois aussi une vraie stratégie. Je donne et ça me donne une certaine forme de pouvoir par rapport au lieu et au cadre dans lequel on a pu donner. Et la Torah nous dit, lorsqu'il s'agit de construire le Mishkan, lorsqu'il s'agit de construire ce sanctuaire, pardonnez-moi, eh bien, il faut que ça soit véritablement l'Ishmi. C'est-à-dire bien, bien réfléchir sur le fait que ce qui nous intéresse exclusivement, c'est d'accomplir la volonté du Créateur. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis après, Veikru, et ils prendront, lit pour moi, Teruma, prélèvement. Cette notion, tout d'abord, de Teruma. Truma, c'est un prélèvement. Prélever, c'est-à-dire réaliser que j'ai une chose qui m'appartient. Elle est à moi. Et maintenant, je prends de cette chose et je m'en sépare. La Torah, vous savez, aime bien que l'on fasse des choses en pleine conscience, que l'on réalise ce que l'on est en train de faire. D'ailleurs, lorsque l'on va parler dans une autre paracha de la nécessité de donner aux pauvres, bien, le verset nous dit « Kipatoar tiftach et tiatralou » car ouvrir, tu ouvriras ta main vers lui. Alors, c'est très curieux parce que quand on parle de donner, eh bien, ce n'est pas ma main que j'ouvre. Au contraire, je prends quelque chose dans ma main et je la donne. Il y a parmi les lectures celle-ci. En effet, les choses, a priori, nous appartiennent. Car, j'ai envie de dire, au niveau purement juridique, les objets nous appartiennent, notre argent nous appartient, ce qui sont tous nos avoirs, eh bien, c'est à nous. Et la Torah dit, eh bien, prends la mesure de l'acte que tu vas faire. Tu ouvres ta main, c'est-à-dire tu es prêt à renoncer à quelque chose qui est à toi. Teruma, tu prélèves, ça veut dire que tout cela est à toi et tu prends de ce qui est à toi pour pouvoir maintenant le consacrer à quelque chose. Et à travers cela, eh bien, je pense qu'on nous apprend aussi à savoir valoriser cet acte et prendre la mesure qu'au fond, c'est une construction, c'est quelque chose qui s'élabore. Et après, justement ce terme de « et vous prendrez pour moi », non pas « vous donnerez ». Car en effet, disent nos maîtres, qu'on le veuille ou pas, eh bien, au moment où tu prends de toi pour donner, tu le fais lishmi pour moi, pour exclusivement pour Dieu, mais il va y avoir dans un effet ricochet, dans un effet, j'ai presque envie de dire boomerang, quelque chose que tu es en train de prendre. Ce n'est pas cela qui est à l'origine de ton don, mais sache que tu vas prendre quelque chose. Qu'est-ce que tu vas prendre? Une dimension nouvelle. Tu vas prendre chez toi maintenant, tu vas être bénéficiaire au fond de ce don. Curieux de voir que peut-être que le premier bénéficiaire du don va être la personne qui le fait. Pourquoi? Parce qu'à travers cela, elle s'arrache un petit peu plus à son égoïsme, à son égocentrisme. Parce qu'à travers cela, elle s'interroge un peu plus sur le fait que ce qui a été mis à notre disposition, eh bien, c'est là pour être partagé avec les autres. Nous n'en sommes que les dépositaires. C'est valable d'ailleurs à tous les niveaux et c'est la raison pour laquelle la Torah va inclure dans l'univers du don tous ceux qui vont consacrer de leur temps, de leurs énergies pour pouvoir justement construire ce Mishkan. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le texte nous dit là-bas, mais El Koli Shachari devait nous libérer toute personne dont le cœur le pousse à donner. Et on va voir que ceux qui vont être les artisans, eh bien la Torah va aussi mettre l'accent sur cette dimension, puisque on va dire v'chol chacham lev bachem, tous ceux qui ont véritablement une sagesse de cœur. Alors la chochma là-bas dont on parle, c'est justement ces capacités artisanales, mais la Torah nous dit oui, chacham lev, il faut que le cœur de l'individu soit présent au moment où il fait cet acte. J'ai presque envie de dire que ce qui se joue à l'intérieur de nous va donner une dimension différente à cette chose qui va maintenant être présente dans le Beit HaMikdash. Il va y avoir une forme d'épaisseur différente. Il va y avoir quelque chose qui a une densité autre parce que à l'intérieur de cet objet, à l'intérieur de ce matériau, à l'intérieur de cette chose sur laquelle on a travaillé, eh bien, il y a cette notion de nitvat lev, c'est-à-dire de quelque chose qui se joue au niveau du cœur, de cette joie profonde que l'on ressent à donner. D'ailleurs, vous savez que Rabbi Lubavitch, dans un long discours qu'il avait fait justement dans les parachiotes qui sont tout autour de nous, avait beaucoup, dans les années, je crois, 60, eh bien, avait beaucoup, beaucoup insisté justement sur le fait que l'on doit être joyeux lorsque l'on va donner la chose. Et Sur cela, je voudrais vous rapporter un petit enseignement du Baal Shem Tov, qui est le suivant et que le Rabbi d'ailleurs, je crois, rapporte. Eh bien, le Baal Shem Tov, dit-on, donnait beaucoup, beaucoup bien plus que ce que la Halakha autorise, parce que la Halakha, la loi juive, nous dit tu ne peux pas donner autant que tu veux, tu peux donner jusqu'à un cinquième de ta fortune, mais après, peut-être pas, sauf dans certains cas particuliers. Pourquoi ? Nous avons peur que tu le regrettes un jour. Mais le Baal Shem Tov donnait beaucoup. Et il expliquait cela de la manière suivante, qu'au fond, eh bien, l'argent est là pour que l'on puisse aussi un moment se faire plaisir. On se fait plaisir en achetant des choses qui nous font plaisir. Et quand le plaisir vient du fait que tu as donné, alors pourquoi je ne pourrais pas en effet utiliser cet argent pour faire quelque chose qui génère aussi du plaisir, c'est-à-dire de donner. C'est une phrase que je trouve tellement belle, mais quelque part dans la bouche de celui qui la prononce est aussi profondément authentique. Et je crois que ça nous ouvre peut-être à cette réflexion sur est-ce que l'on ressent vraiment un bonheur de pouvoir apporter aux autres ? Est-ce que l'on dit même merci à Dieu d'avoir ce privilège de pouvoir leur apporter, d'avoir ce privilège de pouvoir leur donner ? Ça peut être une oreille attentive, ça peut être de l'argent, ça peut être un conseil, évidemment, si nous le demandent, ça peut être tellement de choses, mais qui, au fond, vont être, pour eux, du bonheur, un plus, et pour nous, une joie profonde d'avoir eu, et j'insiste beaucoup, ce privilège. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que l'on va voir que dans cette fameuse création du Mishkan, eh bien, il va y avoir un afflux de dons. Le texte nous dit qu'en effet, il va y avoir vraiment un afflux de dons. Ils vont vraiment courir pour donner, à tel point d'ailleurs qu'à un moment, le verset va dire « Vam la haïta dayam veruter » que ce qu'ils ont donné, dayam, c'était, il y en avait, on leur a dit « Daï, ça suffit », il y en a presque trop. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était ça qui les agitait, le désir profond de faire quelque chose pour Akadosh Baruch. Et je crois qu'à nous d'essayer, sur la base de cet enseignement, de faire exister cette chose à l'intérieur de nous, de savoir qu'en effet, ce qui est là, c'est à nous, et que l'on a un bonheur de pouvoir prélever, de pouvoir l'apporter à l'autre, de pouvoir après réaliser ô combien cela nous construit intérieurement, cela change notre rapport au monde, aux choses, et c'est en cela où, en effet, on construit aussi ce fameux Bet Amikdash intérieur, ce fameux Mishkan intérieur, cette fameuse résidence divine qui n'est peut-être pas à Jérusalem, mais qui peut être Belev Kol Echad Vechad dans le cœur de tout à chacun, et qui est aussi l'élément qui constitue l'essentiel même du peuple d'Israël, c'est-à-dire la famille juive, un lieu dans lequel eh bien, chacun est heureux de pouvoir apporter à l'autre, est heureux de s'aider, est heureux d'être le support de ce qui va pouvoir amener un sourire et un bien-être. Voilà, j'ai envie de dire quelles sont peut-être les implications extrêmement concrètes que peut générer chez nous cet enseignement, à nous de ne pas le voir juste comme étant un descriptif de ce qui a eu lieu, mais bien plus un guide de ce que nous pouvons nous-mêmes faire exister ici et maintenant.
Et on va essayer d'y penser, ça me fait penser un peu, je ne suis pas érudit, mais ça me fait penser un peu au kaddish, ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on fait un kaddish pour quelqu'un qui est décédé, on le fait totalement pour lui, on le sait. Et d'ailleurs, généralement, c'est un acte pour ceux qui sont pratiquants, qui est très, pour tout le monde d'ailleurs, qui c'est très important, pour la personne. On sait que c'est pour la personne. Et quelque part, intuitivement, on se dit, on se doute bien que si on fait quelque chose de bien, on va en tirer quelque chose. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais moi, je l'ai un peu vécu comme ça.
Évidemment, on pressent que ce que l'on est en train de faire, nous allons toujours en être le bénéficiaire, mais plus, ce qui nous préoccupe est de faire réellement les choses parce qu'elles doivent être faites. Non pas dans une forme de pince-somme, il faut bien le faire, on le fait. Non, c'est ce que l'on attend de nous, c'est ce que l'on veut de nous. Eh bien, j'ai l'impression que plus cette idée est dans notre tête, mieux il y aura une forme de retour que l'on va constater au niveau d'un élément supplémentaire qui s'inscrira à l'intérieur de notre vie.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et à la semaine prochaine.
Bonsoir et à la semaine prochaine.
Allez Eli, je t'embrasse.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, je cours, je dois faire mariage là maintenant,
je
tout de suite.
Bien.
Pardon? Bah, il est trahot, Shabbat shalom.
Porte-toi bien.
Ah, d'accord. Merci beaucoup, toi. Enfin, que des bonnes choses. À la semaine prochaine. Shabbat shalom. Et on part pour Jérusalem. On le retrouve, Rav Mordechai Bitton. Bonsoir, Rav Mordechai.
Shalom Alechem.
Shalom Alechem. Pour la première fois cette semaine et pour jusqu'à l'été et l'hiver prochain, on ne se dit pas spécialement Shabbat Shalom ou Shavuot Tov, puisque cette émission est diffusée le vendredi après-midi et le samedi soir. Rav Mordechai Bitton, on continue notre réflexion sur la paracha. Et je vais poser une question que je me suis toujours posée, que je pense que beaucoup de gens se sont toujours posées, et que on n'a pas tous forcément osé en parler comme ça, ouvertement, je sais pas, parce que bon, en même temps, notre émission est très libre, et notre radio aussi, mais bon, généralement, on peut ne pas parler comme ça. Je n'ai jamais compris, vraiment des habitants, pourquoi Dieu, dans son immensité, a besoin d'une maison. Bon, déjà, un endroit où, nous dit-on, il réside. Bon, je veux bien. Je sais pas ce que ça veut dire, donc ça me gêne pas, puisque je sais pas ce que ça veut dire. Mais franchement, qu'il ait besoin qu'on lui sacrifie des animaux, vous voyez, j'arrive au point, j'ai jamais compris. Donc, est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus ce soir, et essayer de nous éclairer un peu? Est-ce que c'est un choc? D'ailleurs, ça doit l'être. Voilà, bon, il a demandé. Mais est-ce qu'il y a quand même quelques éléments de réflexion, même si c'est effectivement l'une des lois les moins compréhensibles?
Effectivement, cette notion de korban, de sacrifice, korban en hébreu, ça a la racine karov, karov, se rapprocher d'Hachem, mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi est-ce qu'on se rapproche d'Hachem en sacrifiant des animaux ou en faisant brûler des encens? Pourquoi est-ce qu'on se rapproche d'Hachem même dans un lieu géométrique, un lieu cerné en quelque sorte? Hachem, il est partout. Au début de la paracha, à Kadosh Baruch Hu, Dieu dit à Moshe, va sous les Mikdash, ils vont me faire un Mishkan, donc un sanctuaire, le Shachanti Betocham, et je vais résider au milieu d'eux, c'est-à-dire en chacun d'entre nous. Alors la question est encore plus forte. Si Hachem réside en chacun d'entre nous, si on a la capacité, chacun d'entre nous, par notre Neshama, notre partie divine, de faire qu'Hachem réside, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, la présence d'Hachem réside en nous, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un lieu géométrique, fermé, et qui soit, en quelque sorte, un lieu réducteur, d'une certaine manière? Et en plus, pour y faire des choses qui sont étonnantes, en quoi c'est servir Dieu que de prendre les éléments animaux, minéraux, végétaux, et donc de les amener au Beth-Amikdash? Alors, pour répondre à cette problématique, pas à la question, mais à la problématique, dans cette émission, on soulève des problématiques, et puis après, chacun va aller au Beth-Amikdash, va aller se pencher sur les textes et essayer d'approfondir. Pour répondre à cette problématique, il faut comprendre une chose qui est tout à fait fondamentale. C'est qu'en fait, le but de la création, c'est ce qu'on appelle le yichud, c'est l'unité. L'unité, c'est de comprendre que chaque chose qui a été créée recèle d'une parcelle divine. J'explique. Dans la Kabbalah, nous disons qu'il y a, pour les éléments minéraux et végétaux par exemple, un nefesh à markevet. Il y a une espèce d'âme divine, une partie divine, qui permet à ces éléments de tenir en quelque sorte et d'être imbriqués les uns avec les autres. Il y a dans le règne animal également un nefesh abémis, c'est-à-dire une espèce de parcelle de volonté divine qui veut que cet animal vive. Et en chacun d'entre nous, il y a la neshama, il y a donc l'âme divine ou le nefesh amedaber, la partie parlante. Autrement dit, bien que la création prenne des formes diverses, elle obéit au fond à un principe unique qui est que Hachem veut que la création vive. Dans le Mishkan, dans le sanctuaire, dans le désert, et dans le Beth Amikdash plus tard, on va prendre l'ensemble de ces éléments-là et on va les ramener devant Hachem pour dire, voilà, on veut maintenant te servir. Et on te sert avec tous les éléments de la création. Et finalement, cette discussion-là, elle est un petit peu, je ne vais pas dire au cœur, mais elle occupe la discussion entre le Ramban Nachmanide et le Rambam Maïmonide, au sujet des sacrifices, parce que vous savez que dans le Moré Nevouchim, dans le Guide des Égarés, Rambam dit, bon, les sacrifices, ils ont été institués parce que Ce dont il était question, c'est que les Bnei Israël étaient des idolâtres, et pour les faire passer de l'idolâtrie au service d'Hachem, alors il va y avoir un lieu qui est un lieu emblématique où on sacrifie des animaux. Le Rabban d'Armanit dit c'est pas comme ça que ça marche, et la Torah, elle a été créée avant la création du monde. Estakel Boreto Bar Alma, Hachem a regardé dans la Torah pour créer le monde, et donc le Mishkan, et tout ce qu'il y a dans le Mishkan, c'est encodé dans la Torah avant même la création du monde. Il y a même que le monde a été créé pour qu'on puisse faire le Mishkan, le sanctuaire et le Beth Amikdash. Mais ce qui est au cœur en fait de cette discussion, c'est de dire la chose suivante, c'est-à-dire que tout ce qui se fait finalement dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, ça obéit à quoi ? À un principe d'actualité, qui est que les Bnei Israël étaient idolâtres, il faut leur faire faire un passage, ou un principe d'éternité, qui est que la création, eh bien, elle a été faite pour que dans le désordre apparent, on révèle la volonté d'Hachem et le yichud, l'unité finalement de tout. En fait, le Rambam et le Ramban, comme toujours dans une discussion, au fond, ils sont d'accord. Au fond, ils sont d'accord. Il y a les deux. C'est qu'il y a effectivement à un moment donné un passage, et de l'autre côté, il y a une éternité. Et en fait, nous, quand on regarde aujourd'hui la parasha de Trouma, quand on regarde le Mishkan qui se met en place, on voit qu'il y a la menorah qui incarne la Torah. On voit qu'il y a le shulchan, la table, qui incarne la matière, la relation à la matière, manger, boire, etc., la bracha dans la matière. On voit qu'il y a l'autel des sacrifices, on faisait l'autel de l'encens. On voit qu'il y a le Aaron HaKodesh dans lequel la Torah est posée, par-dessus lequel il y a des chérubins, des kruvim, qui est le Kodesh HaKodeshim, qui est le lieu même, c'est le Saint des Saints, c'est le lieu dans lequel se joue en quelque sorte une partie les plus essentielles de la Avodat Hashem, et il y a l'autel extérieur où on sacrifie des animaux. Alors nos sages nous disent même que ce Mishkan-là, il ressemble au corps humain. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de sacrifier des animaux, par exemple ? Bah parce que les animaux représentent la partie, comme le dit Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Nefesh HaBehemi, la partie animale qu'il y a en nous. Et finalement, une des tâches de l'homme est de sacrifier la partie animale qu'il y a en lui. D'ailleurs, dans le Beth Amikdash, lorsque quelqu'un avait fauté, il amenait un animal. Pourquoi ? Parce qu'il devait, en quelque sorte, visualiser la destruction, l'anéantissement de la part animale qui était en lui. Donc, il y avait une logique là-dedans. La même chose pour les encens. Les encens, c'était une expiation également. Le Ketoret aujourd'hui, par exemple, on lit aujourd'hui le texte du Ketoret, c'était une expiation, une expiation par rapport au Magepha. C'est aujourd'hui, par exemple, le Ketoret, on le lit pendant la période du Covid, que j'espère bientôt derrière nous. On a lu le Ketoret, on a lu le texte des encens. Pourquoi ? Parce que les encens étaient censés disperser les forces du mal, les brûler complètement. Donc, vous voyez, il y a ici une logique qui est une logique qui nous dit la chose suivante. En fait, nous sommes aux prises dans notre vie avec toutes sortes de forces animales, de forces bestiales, de forces de désordre qui nous coupent de la partie divine. Et lorsqu'un individu faute, il fallait qu'il prenne ces parties-là et qu'il les amène au Beth Amikdash. Il fallait qu'il ait la possibilité de voir ce qu'il advient d'une force animale. C'est quelque chose qui a une fin et qui est promis à la destruction. Et donc, lorsqu'il rentrait dans le Beth Amikdash, qu'il entendait le merveilleux chant des Lévi'im, et qu'en même temps, il était envahi par les paroles de réprimande du Kohen, et qu'en même temps, il était envahi par ses pensées de Teshuvah, il assistait à l'anéantissement de sa partie animale. C'était une des fonctions du Beth Amikdash, c'est une des fonctions pour lesquelles on devait sacrifier des animaux, et on devait faire des sacrifices. Donc, on voit qu'il y a ici toute une problématique autour du Mishkan et du Beth Amikdash qui touche à la fois à l'individu, à sa avoda, son service divin, et en même temps au raté de son existence et du service divin. Et donc, le Beth Amikdash était un lieu qui permettait à Israël de faire teshuvah, qui permettait aux nations du monde, à Sukkot, de venir. Il y avait 70 sacrifices qui étaient offerts à Sukkot. Lorsque des représentants des nations du monde venaient au Beth Amikdash, ils ressortaient en disant, en promettant qu'ils vanteraient les mérites du peuple juif. Donc c'était un lieu de communion, un lieu de rapprochement, un lieu où l'individu retournait vers lui-même. Et ça, c'est absolu. C'était une force pour le peuple juif absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, maintenant qu'on n'a pas le Mishkan ? Mais Bezrat Hashem, bientôt on l'aura, quand le Mashiach reviendra. On se souhaite ça très bientôt, comme dit le Rambam, on doit y croire tous les jours. Mais là, en attendant, qu'est-ce qu'on a ? On a l'étude des lois des sacrifices, et la lecture des korbanot tous les matins avant la tefila. La lecture donc de ce qu'on appelle les korbanot, le passage où on parle du sacrifice perpétuel, des encens, etc. On a ça aujourd'hui, qui est une manière avant la tefila aujourd'hui de se ressourcer, de revenir vers soi-même et finalement de dire à Kadosh Baruch Hu avant de prier, voilà, je sais que j'ai en moi une partie animale, comme dit Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, et cette partie-là, eh bien, je vais apprendre à la maîtriser, je vais apprendre à utiliser ces forces-là pour le bien, et je vais pouvoir te servir. Au passage, je vous signale que quand on termine la lecture des Korbanot, c'est très intéressant, parce qu'on nous dit qu'on doit être fort comme le lion, qu'on doit être agile comme l'aigle, qu'on doit être fort comme le tigre. En quelque sorte, on nous dit, voilà, vous avez des forces animales en vous, ces forces animales, en fait, il faut apprendre à les utiliser, il faut apprendre à les sublimer, à les encadrer, et à les diriger vers des buts constructifs. C'est intéressant, parce que c'est exactement ça la problématique des sacrifices, et c'est exactement ça la problématique du Beth Amikdash autour des sacrifices. Apprendre à complètement dominer la force animale. Je veux juste terminer avec un dernier point, et j'en ai vraiment terminé cette fois-ci. Sur les rabbins sont un peu longs, ils ont du mal à s'arrêter. Quand un rabbin dit qu'il va s'arrêter, on ne sait jamais s'il ne va pas continuer deux heures. La première discussion dans la Gemara, elle a commencé précisément sur le fait de savoir si on avait le droit pendant Yom Tov de poser la main sur l'animal qu'on amenait en sacrifice, pour dire finalement qu'on soumettait la partie animale donc au moment où on amène le sacrifice expiatoire, les sacrifices donc pendant les fêtes. C'est la première discussion qui a eu lieu, c'est là que l'oubli s'est installé après plus de 100 ans de présence des Grecs en Eretz Israël. L'oubli s'est installé, les marloquettes se sont installées, ça a commencé sur ce point-là. Est-ce que oui ou non, pendant Yom Tov, on peut poser sa main sur l'animal? Est-ce qu'il n'y a pas ici une manière d'utiliser l'animal? C'est très intéressant de voir que la marloquette, la brisure s'installe dans le peuple juif autour de cette question du rapport à l'animalité et à l'humanité et à l'éternité. Je crois que ça mérite vraiment réflexion. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, Shavua Tov, Bracha Vehatzlacha.
Et à la semaine prochaine, bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Rav Mordechai Biton, je vous remercie pour ces belles paroles. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir.
Maria Chadré, on continue notre réflexion sur notre paracha de la semaine. Et bon, cette paracha Trouma, elle parle aussi du fait qu'on doit donner avec son cœur.
Alors, c'est ça.
C'est intéressant parce que bon, ailleurs on peut entendre aussi autre chose, c'est qu'il y a un devoir de donner. Mais vous avez envie d'intervenir vous ce soir sur l'intention. C'est très important dans le judaïsme, l'intention.
Alors c'est ça, c'est au-delà même de l'importance, en fait c'est la condition sine qua non hein, du don pour fabriquer cet endroit, ben, le Mishkan, vous savez, c'est le lieu qui ensuite sera déplacé dans le temple de Salomon. On pourrait dire que c'est le trait d'union entre le ciel et la terre, c'est l'accès, c'est la Wi-Fi, c'est la Wi-Fi qui nous mène à au-dessus, au métaphysique, à tout ce qui dépasse le physique. Alors ce qui semble paradoxal, c'est que la paracha s'ouvre avec une demande pour donner des objets complètement physiques. 13 matériaux, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est du cuivre, c'est des étoffes précieuses. Donc ce sont des objets. Et il est vrai qu'on peut se demander, mais enfin, comment un objet, aussi beau soit-il, et agencé avec intelligence, etc. Enfin, comment un objet aurait donc cette capacité donc de nous aider à nous décoller de notre condition de terrestre et à atteindre des hauteurs spirituelles, en l'occurrence. Et la réponse est donnée, en fait, par les mots de la paracha. Mais moi, je voudrais vous citer Nachmanide. Il y a un Nachmanide que j'invite vraiment tous nos auditeurs à lire et vraiment à réfléchir à son enseignement, à vos tables de Shabbat, à vos tables de discussion. Il dit que quand la terouma, donc ce don volontaire hein, qui n'est absolument pas imposé, était apporté, eh bien, il devait être apporté avec une intention. Quelle intention? Une intention sincère hein, de participer à l'élaboration du Mishkan sans que ça nous octroie comment dirais-je aujourd'hui, des honneurs, une place dans la société. Il fallait que l'intention soit le plus pure possible. Et d'ailleurs, plus elle était pure, plus objet arrivait proche du Saint des Saints. Et donc, finalement, ici, ce que nous dit ce texte, il nous dit que finalement, le monde, ce n'est pas juste un monde d'action, certes, le monde se transforme avec des actions. Il faut agir. Une mitzvah, c'est une action. Nous devons d'agir. Mais agir sans intention, eh bien, c'est comme un corps sans âme. C'est comme un cadeau qui serait donné, mais alors sans aucune intention, sans aucune volonté derrière, sans aucune réflexion. Alors, ça peut être le plus beau cadeau au monde, mais ça ne fera pas plaisir. Parce que même si ce monde est un monde corporel, fait de mouvements, fait d'actions, fait de visible et de quantifiable, finalement, ce qui donne vie à tout cela, c'est les intentions. Et voilà que nous venons de terminer de recevoir la Torah, c'était la semaine dernière, on a assez Vénishma. Et finalement, ben, la question qu'on va se poser à travers cette paracha, c'est oui, mais quelle Torah ? Est-ce que c'est une Torah faite d'une liste à cocher, la fameuse to-do list ? Alors j'ai mis mes téphilines, ou j'ai fait ma prière, ou j'ai préparé mon Shabbat, ou j'ai allumé mes bougies, ou j'ai fait telle ou telle ou telle action de la Torah. Et puis finalement, on peut malheureusement, et c'est la pire des choses, vivre une vie de juif en cochant des cases. Et ça serait la vie non seulement la plus triste, mais la plus éloignée du judaïsme, la plus éloignée de ce qu'est la Torah de vie. Alors être vivant, c'est ça, c'est une action avec une intention. Et ça commence tout de suite avec Terouma, mais en réalité, la question qu'on doit tous se poser cette semaine, c'est à quoi ressemble notre vie. Des fois, nous faisons des actes qui sont répétitifs, qu'il faut faire, et là, je parle aussi en tant qu'épouse et maman, bien sûr, il y a des obligations, il y a des nécessités de prendre soin, d'être là, de faire, des fois de faire et de refaire, et ça peut être fatigant, le fait de faire et de refaire. Mais tout ce qui va changer nos attitudes, finalement, c'est l'émotion et c'est la vie que l'on va mettre, que l'on va faire pénétrer dans l'action. Et en fait, ça, eh bien, nous sommes libres. Nous sommes tous libres de le faire, de choisir comment nous faisons nos actions. Et en fait, on va découvrir, on va explorer un nouveau monde devant nous, parce qu'on va découvrir que finalement, avec les mêmes actions, on peut vivre des vies différentes. Tout dépend, finalement, des intentions qu'on va mettre dedans.
Bien, voilà un bel enseignement. L'intention, c'est ce qui change tout. Vous savez, dans Brachot, on dit que si on avait l'intention de faire une bonne action et qu'on en a été empêché, Dieu nous la compte. Il nous la compte au maximum. Mais ce qui est extraordinaire, et je ne vous apprends évidemment rien, Mariacha, c'est que si on avait l'intention d'en faire une mauvaise, Dieu dit non, non, c'est
ouais,
pas compté.
Ouais, c'est merveilleux.
non, il n'a pas fait.
On est bénéficiaire, du coup.
La définition de l'amour,
absolument.
Ça.
Absolument.
Maria Chadré, je vous remercie. Bonsoir à vous. Je vous dis Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi et Shavua Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir. Bonsoir, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Je voudrais vous rappeler que les 6 et 7 février prochains, donc vraiment tout de suite, ce sera le Yerseil de Rav Rosenberg et qu'à cette occasion, son fils organise une campagne de soutien à Avat Chaim, qui est un kollel qu'il a ouvert à Jérusalem, qui accueille des jeunes francophones, même ceux qui veulent faire des études ont la possibilité d'être hébergés là-bas, d'étudier le matin, ensuite de voir leur cursus professionnel ou universitaire. C'est un collège donc avec un objectif tout à fait particulier d'intégration pour ces jeunes. Ça s'appelle Ahavat Torah et les 6 et 7 février, un allodon est organisé. Pour ceci, eh ben, soit vous répondez au téléphone aux militants qui vous appellent, on connaît tous maintenant comment ça fonctionne, allodon, soit vous allez sur allodon.fr/ les œuvres du Rav Rosenberg. Faites attention que Rosenberg s'écrit avec un Z. Shabbat Shalom, si vous nous écoutez le vendredi soir, c'est notre expression là, pour quelques jours. Shabbat Shalom, si vous nous écoutez le vendredi soir, sinon Shabbat Tov.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari yeh, shalom shokat shoy meh.